Vous écoutez France Culture.
Bonjour, bienvenue à Carreau. Impeccable, très bien. On va aller saluer le chef d'établissement, puis après on ira au SPIP. Voilà, bah écoutez, en plus vous nous apportez le soleil, une journée magnifique. Espérons que les choses vont perdurer encore toute la semaine. Voilà, très bien.
Clairvaux, la voie des longues peines.
Si vous voulez suivre.
Premier volet, instant limite.
Un documentaire proposé par Véronica Colalti
et Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk.
Clairvaux, c'est d'abord une ville, en quelque sorte, avec une seule porte dans ce fameux mur de 3 km. C'est un lieu un peu labyrinthique, puisque si je n'étais pas avec vous, vous ne sauriez pas ressortir de ce lieu. Tous ces bâtiments qui sont autour de nous, il y en a quelques-uns qui sont neufs, il y en a quelques-uns qui sont anciens, il y en a quelques-uns qui sont restaurés, il y en a quelques-uns qui sont en ruine.
La chose qui m'avait plus frappé que la première fois que j'ai visité Clairvaux sont les murs, comment dire, des rangées de murs. Bon, c'est pour évidemment, pour pas qu'on puisse s'évader. Donc, entre ces murs, il y a de l'herbe, il n'y a rien, en fait, juste un peu d'herbe. Et on voit comme ça des murs qui se succèdent, avec des barbelés en haut. On a l'impression que tout ça a été construit sans plan. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment le cas. On rajoute un obstacle. Bon. Et donc, ça fait une architecture complètement démente, d'une certaine façon.
Attention.
On a quelques marches.
Alors là, il faut descendre un petit peu. Alors ici, on ne voit encore pas la prison actuelle. Parce que dans ce labyrinthe, on se débrouille, nous, pour montrer aux visiteurs des lieux fantastiques sans jamais voir un détenu et sans jamais voir un morceau de la prison actuelle.
De loin, on ne sait pas trop. Tout ça est entouré par une enceinte, un mur d'enceinte. Et de loin, on ne sait pas trop ce qui est la prison et ce qui est l'abbaye, en fait. C'est ce qui est assez fascinant dans ces lieux. L'univers carcéral est quand même très présent, même dans la partie ancienne de l'abbaye. Par contre, quand on rentre dans la prison elle-même, la première cour, c'est une architecture 17e. Et puis, ça n'est qu'après qu'il y a les bâtiments modernes dans lesquels se trouve la centrale. Mais tout ça s'interpénètre complètement.
On est dans un lieu absolument exceptionnel puisqu'il réunit à la fois une ancienne abbaye et une prison, qui est encore aujourd'hui une prison, alors que toutes les anciennes abbayes qui ont été transformées en prison sont maintenant redevenues des lieux patrimoniaux exclusivement. Clairvaux, c'est un lieu complètement atypique dans la mesure où, effectivement, quand on pénètre dans cette cour, on voit un petit peu des bâtiments relativement désaffectés. On se demande qu'est-ce que c'est exactement. On se dit si c'est une abbaye, il n'y a rien à visiter parce que tout est fermé à clé. Donc on est encore un petit peu en prison, même dans l'abbaye. Et les lieux sont partagés entre deux propriétaires, le ministère de la Culture qui gère les lieux où se déroulent notamment les visites et le festival, et puis le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire qui gère tout le milieu carcéral. Donc voilà, on arrive à Clairvaux, on voit un grand drapeau au fond et on ne sait pas ce que c'est, mais en fait c'est l'entrée de la prison. Et puis, on rentre par une petite porte et on visite les lieux qui sont complètement, assez en ruine. Hein. Finalement, il y a cet aspect délabré aussi à Clairvaux qui rentre en ligne de compte et qui fait que c'est un lieu pas comme les autres. Donc, je trouve que les murs racontent une histoire. À la limite, je dirais que pour créer les thématiques du festival, il suffit de regarder et d'écouter les murs parce qu'ils parlent et que donc ils vous suggèrent plein de choses.
Clairvaux, c'est la grande abbaye cistercienne du Moyen-Âge.
Jean-François Leroudouy, président de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux.
La Clairvaux a été la tête d'un domaine considérable, puisque les cisterciens ont la particularité de travailler, et cette richesse qu'ils ont accumulée, eh bien, ils l'ont transformée en terre, en foncier, et ils sont devenus propriétaires de 20 000 hectares de terres labourables et de forêts. Et cette richesse les a conduits à abandonner l'abbaye qu'ils avaient construite au XIIe siècle pour faire une énorme abbaye classique au XVIIIe siècle. Et cette grande abbaye classique, elle va être très importante pour la suite, puisque quand la Révolution française va chasser les moines, Napoléon va utiliser ce patrimoine du XVIIIe siècle pour en faire une grande maison centrale. La plus grande prison française du XIXe siècle, qui, avec pas loin de 3500 détenus, représentait l'archétype de la grande prison telle qu'elle existait après l'invention de la privation de liberté par Napoléon. On a abandonné les peines corporelles et on a fabriqué ce que sont aujourd'hui les prisons. Aujourd'hui, on vit encore sur cette invention. On est dans le chemin de ronde de la prison d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un lieu qui a été occupé par des détenus jusqu'en 1971. Et c'est pour ça que la clé que vous venez d'entendre, Pierre Dex pouvait en parler, puisqu'il avait été détenu ici pendant un an, en 1942. C'était la prison politique des résistants que les Allemands entreposaient, entre guillemets, à Clairvaux, avant de les expédier, hélas, à Mauthausen, où Pierre Dex a été avec bien d'autres. Alors, on est arrivé au Grand Cloître. C'est le cœur même de la grande abbaye classique du XVIIIe siècle. Ils ont construit donc ce Grand Cloître autour d'un carré 50 sur 50, qui est ici, pas une seule porte sur l'extérieur, un sentiment d'enfermement déjà considérable, c'est l'enfermement carcéral, déjà en puissance. Et pourtant, c'était un enfermement monastique. Et on ne voit que le ciel, on est parachuté ici, on ne sait pas où on est. Et on ne démolit pas ce bâtiment, et c'est pour ça que le préfet de l'Aube, quand on lui demande de chercher un lieu absolument extraordinaire pour faire une grande prison, il pense à Clairvaux. Et en 1812, donc, Clairvaux devient maison centrale. Et ici, il va y avoir, dans cette cour et dans ces bâtiments, jusqu'à 3500 détenus au XIXe siècle, hommes, femmes et enfants. Et il y avait des ateliers au rez-de-chaussée et des dortoirs dans les étages. Autour de ce grand cloître, il y avait une sorte de piste où les détenus qui étaient punis faisaient ce qu'on appelle l'Ave Maria. C'est-à-dire on tournait à longueur de journée. Et comme il y avait une fabrique de chaussures à l'intérieur de la prison, on essayait des chaussures et on les faisait tourner pour essayer la résistance des chaussures et combien de temps elles pouvaient durer en heures de marche.
Thank you. Bon, déjà, on sait l'historique de Clairvaux par son statut depuis 200 ans, c'était l'abbaye qui s'est transformée en prison. Réputation, Clairvaux, c'est un morceau historique déjà carcéral depuis 200 ans. J'ai pu visiter l'ancienne centrale où j'ai vu des cages à poules, où j'ai vu l'incarcération sous forme de torture. Torture par sa structure, hein, je parle, qu'on soit clair. Hein. J'ai vu ça, j'ai compris que Clairvaux c'était à part. J'ai fait quelques centrales, ça fait 22 ans que je suis enfermé. J'ai jamais ressenti ce que je ressens ici. Et d'autant plus, comme je suis un furieux d'histoire, je suis un passionné d'histoire, je m'intéresse au cloître des moines, qui est quand même depuis 600... Ils vont fêter les 900 ans plutôt. Et donc, je me dis, oui, je suis dans un lieu historique, avec, c'est quand même paradoxal, les moines, comme ils vivaient dans l'exclusion, finalement, nous, les prisonniers, on vit dans la même exclusion, d'une certaine manière.
Ce mobilier, parce que c'est du mobilier absolument extraordinaire, est la réponse qui est donnée à la loi de 1875, c'est-à-dire que les détenus, au moins, la nuit, seront seuls, ce qui est déjà ça. On a cru que c'était un progrès social, c'est sûr. Et en fait, ce progrès social s'est retourné contre lui-même. Moi, j'ai interviewé des détenus qui avaient été dans ces cages à poules, et ils m'ont dit que c'était l'horreur absolue. Il y avait toujours un fou la nuit qui hurlait. Il y avait une odeur absolument inimaginable parce que tout le monde avait son seau de toilette. On nettoyait les sols avec du grésil. Et il y avait une telle ambiance désastreuse et puis ce bruit permanent des uns et des autres que, à la limite, il y avait des détenus qui préféraient retourner en cellule collective. Le gardien arrivait ici et fermait toutes les cellules d'un coup par ce mécanisme qui est là, que je viens de manipuler. Et de 7h du soir à 7h du matin, jusqu'en 1971, on était ici avec une seule couverture, et pas de lecture, et pas de lumière.
Et pas de chauffage.
Et pas de chauffage. L'autre jour, Robert Badinter est revenu ici, avec beaucoup d'émotion. Il préparait son grand opéra sur Claude Gueux, et il m'a dit, quand je pense que pendant les 30 Glorieuses, la France continuait à enfermer ses détenus dans ces lieux. C'est quand même assez incroyable. C'est 1971. Hein. Ce sont des grillages. Regardez, c'est du bois. C'est des cloisons en bois. Et puis, ça enferme 1,80 m sur 1,20 m. De quoi se coucher. Et puis, grillage au-dessus et grillage latéralement. En fait, Clairvaux, c'est un lieu de témoignage absolu sur l'histoire de la prison. Il faut savoir qu'à l'époque où Clairvaux avait 3000 détenus, il n'y en avait que 20 000 en France. Donc, si vous voulez, on peut dire que Clairvaux était vraiment l'archétype.
Clairvaux qui témoigne de l'histoire carcérale en France.
Et de l'histoire de France aussi. Mm-hmm. Parce que, assez paradoxalement, les grands détenus des politiques dans tout le 19e et 20e siècle ont été à Clairvaux. Alors, ça a été les premiers révolutionnaires, les opposants, on le sait moins, les opposants à la Grande Armée. Oui, parce que tout le monde ne voulait pas aller en Russie. Ça a été ensuite des révolutionnaires sous Louis-Philippe. Ça a été le père Duchesne, le journaliste. Ça a été Claude Gueux. C'est pas un personnage politique, mais c'est devenu un symbole. Ça a été Blanqui au moment de la Commune, des ministres communards. Ça a été le prince Rostopkin. Ça a été des mutins de Verdun en 1916, des cagoulards, des résistants pendant la guerre, des gens du FLN après la guerre, et puis parmi les derniers en date des détenus, des gens comme de l'OAS, et puis les généraux putschistes, et puis des résistants basques, des indépendantistes corses, et puis également Carlos, il y a encore pas si longtemps. Autrement dit, cette chaîne de l'histoire de France intégrée à la prison de Clairvaux.
Aux petits, on donnait des pardessus en guise de veste. Les grands, eux, avaient droit pour leur tenir lieu de pantalon à des trucs qui leur arrivaient à mi-mollet. Il fallait voir notre accoutrement. Et le froid. Dire que je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours des gerçures et des engelures. À l'époque, les punitions de cellules pouvaient aller jusqu'à 90 jours. Tu faisais des pompes, on te collait un motif pour préparatif d'évasion, et pan, tu n'y coupais pas. Le mitard, tu y croupissais, pieds et mains enchaînés, les chaînes fermées par des cadenas. On bossait 7 jours sur 7. On confectionnait des ballons, des punching balls, des selles pour les chevaux. On peut dire que les concessionnaires se sont bien enrichis sur notre dos, car en ces temps-là, ils ne payaient pas de cotisation sociale pour la retraite.
Je m'arrête de parler une seconde. C'est le silence intégral. Et pourtant, derrière le bâtiment qui est en face, la partie du bâtiment qui est en face de nous, il y a directement la cour de récréation de la prison d'aujourd'hui.
Clairvaux, c'est une des 4 maisons centrales sécuritaires de France. Donc on y met des détenus lourds, on va dire. Hein. La plupart du temps, ce qu'on appelle des DPS, c'est-à-dire des détenus particulièrement signalés. Beaucoup de perpétuité. Et donc, il y a... disons que... Il y a une chose, je pense, qu'il faut vraiment souligner, c'est que la problématique des longues peines, c'est le temps. Et ça, je pense que c'est une donnée qui est absolument incontournable et qui n'est pas du tout la même problématique que celle des maisons d'arrêt et des centres de détention, qui est plus une problématique de surpopulation. Là, il n'y a pas de surpopulation. Chaque détenu a sa cellule. Mais il faut s'imaginer, et je crois que c'est ce qu'on arrive à se représenter quand on rentre en prison et qu'on y va relativement souvent, c'est cette longueur du temps est toujours identique à lui-même. Je m'appelle Anne-Marie Salé, donc je suis arrivée dans la région il y a une 15aine d'années et j'ai entendu parler de Clairvaux, de ce lieu qui est quand même assez emblématique. Et donc j'ai été proposée au président de cette association qui gère le site. J'ai été lui proposer, après avoir visité les lieux, de monter un festival de musique puisque c'est un peu mon métier. Bon, le projet artistique que j'ai monté a toujours tenu compte de l'identité de Clairvaux, qui, vous l'avez vu, est un lieu exceptionnel dans la mesure où il abrite à la fois une abbaye et une prison. Donc on ne peut pas faire une impasse sur le milieu carcéral. Donc dès le départ, c'était dans la thématique du festival de tenir compte de cette spécificité. Et puis donc de commencer par donner des concerts en prison avec les artistes qui viennent au festival et qui le souhaitaient. Et puis en fait, rien ne me préparait à rentrer en prison et j'y suis rentrée comme tout le monde avec un petit peu d'appréhension. Et puis petit à petit, il y a une sorte de lien de confiance qui s'est établi entre ces détenus et moi. Et du coup, qui m'a donné envie d'aller avec eux plus loin que simplement les rendre spectateurs, mais de les impliquer aussi dans un travail de création artistique. Et c'est en discutant avec certains d'entre eux, avec qui le directeur m'avait mis en relation plus directe, que j'ai pu monter ce projet d'atelier d'écriture et de création musicale. Qui a donné, ça fait maintenant 6 ans, qui donne les résultats qu'on connaît lors du festival.
Allez, à la contrôle.
Ça va, ça va. Voilà.
Atelier d'écriture d'Anne-Marie Salé avec les détenus de la centrale de Clairvaux.
Alors maintenant, je vais vous offrir quelque chose qui est issu de vos créations, le résultat de vos créations. C'est-à-dire que le disque de l'enregistrement qu'on a fait l'an dernier, du concert où est venu Jamel, est sorti. Là, il vient de sortir. Et donc, dans quelques jours, on va le trouver à la FNAC et dans les boutiques de disques. Et donc, vous allez en avoir un chacun. Donc, vous verrez qu'il y a les textes, les photos... Et la musique qui a été écrite sur les textes...
Quand on ouvre, je ne le trouve pas beau, hein? C'est un œilleton de porte.
Ben oui,
malgré tout, il est là pour témoigner de quelque chose quand même. Donc il faut bien qu'il y ait un peu les marques de...
Des marques de souffrance, on va dire.
Non, pas de souffrance, mais les éléments qui sont constitutifs de ce lieu, finalement.
Oui, une porte de prison.
Oui. Pour le livret, et ils le font en anglais parce qu'ils ont une grosse distribution aussi à l'international. Donc,
Non, mais c'est bien, il reste assez simple. C'est les photos, on va dire, peut-être un peu classiques, de mettre une porte, un hueton, mais bon...
On est toujours réticents en tant que prisonniers à participer parce que ce n'est pas notre monde. On n'a jamais écrit, on n'a jamais écouté de la musique classique. Donc on est loin de tout ça. Et voilà, avec un peu de curiosité, d'envie de casser notre quotidien, j'ai pu participer à l'atelier d'écriture avec Anne-Marie, qui m'a permis de m'exprimer à travers des écrits et de dire, ben voilà, tu es enfermé, mais tu vis. Grâce à ça, d'élaborer des textes qui laissent exprimer ma frustration de la liberté, mon manque de liberté, et faire savoir mon humanité aussi. On existe toujours. Et avec Anne-Marie, on a pu toujours parler librement, on ne nous a jamais entravé dans ce qu'on pouvait écrire, juste nous apporter quelques précisions, nous aider un petit peu, et nous a fait connaître des musiciens. Très sympa, et toujours pareil, voilà, c'était pas notre monde, et ces gens, grâce à ces gens, ils nous donnent l'accessible, voilà, ils viennent en toute honnêteté, sans peur, et ils nous font découvrir leur monde, et nous on prend un peu de leur monde, et eux un peu du nôtre, et je crois que ça complète, on les comprend, on apprécie, et ils nous comprennent.
Philippe Hersant, vous êtes le compositeur invité pour cette 10e édition du festival Ombre et Lumière qui se tient à Clairvaux, dont la directrice est artistique est Anne-Marie Salé. C'est la deuxième année que vous allez créer une œuvre d'un genre très particulier pour ce festival. Vous allez composer une œuvre musicale à partir des textes écrits par les détenus de la centrale de Clairvaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet et comment vous avez répondu à la proposition d'Anne-Marie Salé ?
J'ai accepté immédiatement sans trop réfléchir. Après, j'ai eu une sorte d'appréhension qui commençait à me saisir et plus s'approchait le moment d'aller à Clairvaux, d'aller à la rencontre des détenus, plus j'avais une sorte de boule dans la gorge, quoi, avec cette peur un peu irrationnelle qu'on a lorsqu'on rentre dans ce lieu qu'on ne veut pas voir. Mais l'expérience m'a vraiment beaucoup enrichi, beaucoup apporté. Et je devais en fait ne faire qu'un seul festival, celui de 2012. Et Anne-Marie m'a demandé de rester. J'ai accepté là, vraiment sans hésiter.
Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers souvenirs de l'année dernière, de votre entrée à Clairvaux, de ce que vous avez découvert là-bas ?
Bon, la première journée a été vraiment difficile. Au moins pendant 2-3 heures, il faisait un temps épouvantable. Je me souviens un temps vraiment d'automne. Les lieux sont quand même assez sinistres, il faut bien dire. J'y allais vraiment presque à reculons. Heureusement qu'Anne-Marie était là, qui a une grande habitude de ça et qui est très à l'aise finalement avec tous les détenus. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu la peur au ventre et je crois que ça. Tout le monde a un peu cette première impression en arrivant là. Il y a la claustrophobie, il y a une appréhension, une inquiétude. On se demande aussi qui sont ces détenus qu'on voit, qui ont l'air sympathiques, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là. Enfin, il y a toutes sortes d'idées qui vous traversent la tête. Et puis il y a un moment extraordinaire, au moment le plus inattendu, c'est-à-dire qu'on a fait une visite à la fin au Mitar, enfin à l'isolement, parce qu'il y avait là un détenu qui était, il était maintenu à l'isolement, non pas pour protéger les autres, mais pour le protéger lui, parce que plusieurs détenus voulaient lui faire la peau. Donc on le mettait tout au fond de la prison, dans un bâtiment encore plus sinistre que les autres. Et là, vraiment, je me sentais pas bien du tout. Et puis, est arrivé ce détenu qui, pendant une heure et demie, a parlé du Japon. C'était une rencontre absolument fascinante, parce que totalement inattendue. C'est un détenu qui s'est passionné pour le bouddhisme, pour le Japon, en prison, à travers les arts martiaux, parce qu'il avait fait beaucoup d'arts martiaux quand il n'était pas en prison. Et de fil en aiguille, donc, il s'est intéressé au Japon. Il a appris le japonais, il a appris la calligraphie japonaise. Il a écrit des poèmes en japonais, des haïkus qui sont d'ailleurs très beaux, je trouve. Et c'était fascinant de voir cet homme ne parler que du Japon, d'un samouraï pour lequel il se passionne, sur les traces duquel il veut aller, s'il peut aller au Japon un jour, c'est son projet. Et je me suis dit, c'est incroyable, il a réussi à s'évader de Clairvaux. On était dans un endroit absolument sinistre et lui ne parlait que samouraï, film de Kurosawa. Et là, ça a été vraiment un très grand moment, je dirais une grande rencontre, parce que totalement inattendue. Ça, c'est le...
C'est l'instant limite,
voilà,
c'est
l'an dernier.
Elle, c'est notre chouchoute. Maman, parce qu'elle est là, moi je l'adore, Anne-Marie.
On essaye.
Puis on s'entend bien, elle s'occupe très bien de nous. Des fois, on n'arrive pas à écrire et nous aide. Et ça, c'est important. Lorsqu'on n'y arrive pas et qu'on a quelqu'un qui peut nous épauler pour nous donner la voix et tout, c'est important. Et déjà, c'est grâce à elle et c'est à tout ça. Hein. Parce que sinon, ici, il n'y a rien. Et ça, ça nous occupe beaucoup. C'est important. Hein. Parce que déjà, l'extérieur a une mauvaise image de l'intérieur, des prisonniers. Surtout ici, à Clairvaux. C'est important que les gens sachent dehors que même en prison, même qu'on fasse notre peine, et qu'on s'occupe, qu'on peut apporter quelque chose, même en prisonnier, qu'on peut apporter quelque chose aux gens extérieurs. Essayer de donner notre image du détenu, qu'il soit n'importe quel détenu, que le monde extérieur ait une autre image de nous. Et pas dire que c'est des assassins, c'est des criminels. Anne-Marie, moi je la remercierai énormément. Moi je remercie Anne-Marie parce qu'elle nous aida beaucoup à s'occuper, à écrire des tests, à passer le temps. Et c'est cultivant même pour nous. Hein. Sinon, si on ne devient une épave, hein. Si on ne fait rien. Toi, tu as vu depuis que je suis là, tu as vu un changement, moi ou pas? Ça fait 8 ans que je suis là.
Madame Marie, Anne-Marie Salé, vous êtes la parenthèse avec la liberté, on va dire, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas parloir, dû à l'éloignement géographique. Alors, vous savez, quand on se retrouve entre nous, bon, si on n'essaie pas d'évoluer, c'est foutu, quoi. Donc, vous êtes aussi notre parenthèse avec la liberté. Et ça, nous sommes tous reconnaissants. On ne sait pas comment vous l'exprimer.
bon, Anne-Marie, moi je dis que c'est un bout de femme formidable, qui est pleine de vitalité, qui m'a boosté quand je l'étais moins, parce qu'il y a aussi des hauts et des bas en prison. Anne-Marie sait percevoir ça, qui a toujours été tenace là-dessus pour nous dire, voilà, on est là, on travaille. Voilà, ben, elle représente le lien essentiel avec l'extérieur. Anne-Marie vient là, autour de nous, autour de plein de gaillards. Bon, vous la voyez, elle n'est pas trop grande, mais elle n'a jamais été plus en sécurité qu'autour de nous. Et voilà, donc nous, on exprime notre gratitude en venant régulièrement, en élaborant des textes, et en lui disant aussi merci de nous faire confiance, merci de nous ouvrir cette fenêtre que nous, on ne connaissait pas.
Alors, Madame Anne-Marie Salé, elle qui est à la retraite et qui prend son temps pour faire ce genre d'initiative, c'est très, 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 très bien pour nous, quoi, parce qu'on en parle un peu comme ça, elle ne le sait pas, mais nous, on apprécie beaucoup sa visite et on a entendu là que ça ne va peut-être pas se réaliser une prochaine. J'ai entendu des petits bruits là.
On nous enferme ?
Avec le directeur.
Parce que ça fait 6 ans, ça dure. Je suis le troisième qui soutient.
Dominique Bruno, directeur de la centrale de Clairvaux.
Et je peux vous dire que des pots de banane, il y en a.
Ah ben je sais.
Dans tous les domaines. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisqu'on a eu un projet commun qui vous a conduit pour la première fois des gens d'ici à aller visiter les locaux d'à côté, l'abbaye. Ouais. Eh bien, je peux vous dire que c'était pas simple. D'abord, c'était pas gagné. Il a fallu avoir le soutien des magistrats. Mais voilà, ça n'a pas été compris par tout le monde. Donc, ce qui se fait ici n'est pas toujours compris. Donc, sachez-le, c'est pas simple pour vous, c'est pas simple pour Al-Salé, c'est pas simple pour USP, mais c'est pas simple pour personne. Parce qu'il y a des esprits chagrins qui, évidemment, vous lisez les journaux, vous avez ça. La prison devrait être, voilà, pour certains encore. Voilà. Sauf que nous ne sommes pas dans une prison, je ne dirige pas une prison américaine. Donc voilà, je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que ça continue et qu'on mettra les moyens. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre en valeur ce genre d'initiative pour montrer que bon, bah, les prisons, s'y fait des choses intéressantes, encore plus dans des prisons qu'on décrit régulièrement, et Clairvaux n'est pas la dernière, et qu'il y a des gens qui sont capables pour les talents. Et vous le prouvez, c'est pas parce que vous avez fait des conneries, excusez-moi, et tout le monde peut en faire. Qui dit qu'un jour tout le monde n'ira pas, on ne sait jamais, il suffit d'avoir fait un truc à l'extérieur.
Mais quand vous dites ça, ça ne plaît pas du tout de
monde. Oui, non, mais attendez, oui, je sais que ce n'est pas forcément politiquement correct, mais il y en a certains qui sont actuellement derrière les barreaux qui, il y a quelques temps, ne s'attendaient pas à y être, parce que ça peut arriver à tout le monde hein, de faire une connerie. Donc, de toute façon, vous l'avez dit très bien, vous serez tous un jour dehors. Et la culture, et ce que vous faites ici, comme la sculpture, comme la peinture, comme la musique, comme le sport, parce que ça c'est très important, et bien ça passe. Pourquoi vous seriez exclu du reste?
C'est bon?
Ouais, c'est bon.
Ok.
Combien de portes est-ce qu'on a passé depuis l'entrée?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes.
Moi, ça fait des longues années que je suis en prison. Je n'ai pas fait d'études parce que j'étais dans un climat très hostile et j'avais pas le temps d'étudier ou quoi que ce soit. Hein. Si j'avais eu le temps d'étudier, pas d'étudier, de lire, j'ai fait beaucoup de QI dans la détention. Là, dernièrement, je viens de faire 2 ans. Là.
Précisons à nos chers auditeurs, que veut dire le mot QI ? QI veut dire quartier d'isolement. Bon, c'est important de le préciser.
Ouais.
Oui, c'est un peu le même principe. Mais c'est vrai que la vie en cellule, c'est complètement différent de la vie.
Les gens, ils sont plus ou moins libres, entre guillemets. Hein. Ils sont aux portes ouvertes 8h du soir à 19h. 8h du matin à 19h. Tandis que le QI, c'est 22h sur 24 enfermé. Et c'est dans les passages de ce genre de passage-là que je commençais un peu à lire et à m'évader, on va dire, avec la lecture, pour éviter de s'évader par les fenêtres.
Et la lecture, justement, ça, c'est devenu quelque chose de très important pour vous ?
Dans ces moments-là, oui, parce qu'on est seul, il n'y a rien, il n'y a personne. Hein, 22h ou des fois 24 sur 24 enfermés, parce que quand il pleut, c'est un champ de boue. Alors on va pour se mouiller les pieds, et c'est pas la peine. Bon, alors on restait enfermé 24 sur 24. Alors il n'y avait que la lecture. La lecture, un peu de musique, et la télévision pas trop, parce que c'est un peu une deuxième prison, hein, la télévision à l'écran, là, toujours en train de visionner de n'importe quoi, toujours les mêmes infos, toujours les mêmes histoires. Alors bon, c'est vrai qu'avec la lecture, un peu qui nous évadait. Et voilà quoi. Et bon, je suivais un peu les études. Et là, dernièrement, il fallait que je me suis décidé de faire mon brevet des, brevet des collèges que j'ai eu avec mention. Merci.
Bah, le fait qu'on ne sorte pas, on ne peut pas dire qu'on va être angoissé. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Au début, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas sortir en permanence. C'est un changement radical quoi. Par rapport à la technologie qu'il y a maintenant. Vous faites un bond dès votre arrivée de 30 ans en arrière. Quoi. Vous tournez au papier et crayon quand vous en avez, vous n'avez plus rien. Quoi. C'est des difficultés pour tout, pour faire une lessive, pour manger, pour toutes les choses quotidiennes qui vous paraissent normales à l'extérieur. Ici, tout devient compliqué. Quoi. Il faut attendre surtout. Si vous n'avez pas de brosse à dents, il faut attendre qu'il y ait une amie qui arrive. Hein. Entre temps, vous faites comment ? Et tout est comme ça. Quoi. Donc, vous attendez un jet doux, vous attendez une savonnette, vous attendez. Et le souci, le soir, la porte est fermée le soir à 7h. Si de 7h à l'autre 7h du matin, il se passe quelque chose, vous êtes tout seul dans votre cellule et puis il faut vous débrouiller tout seul aussi. Quoi. Vous avez mal de crâne, si vous n'avez pas de dafalgan, ça paraît rien. Mais vous n'irez pas voir votre voisine pour qu'elle vous donne de dafalgan. Quoi. Si vous avez mal aux dents, ben, vous prenez votre mal en patience. Quoi. Et on ne peut pas dire, et en plus, il n'y a pas le retour d'information. Vous appelez votre dentiste, on va vous dire, ben, vous avez rendez-vous tel jour. Ici, vous prenez un rendez-vous dentaire, vous ne savez pas si votre papier il a été transmis au dentiste. Enfin, c'est un exemple, hein, j'ai une dentiste comme et il n'y a pas, les retours d'informations, il y a les moyens de communication qui sont compliqués. Vous voyez, si on veut appeler notre famille à cette heure-ci, vous voyez qu'on ne peut pas vous appeler, vous, parce que là, à cette heure-ci, vous êtes au travail. Donc finalement, on va appeler tous au même moment. Donc il y a un téléphone pour tout le monde. Donc c'est un peu la bataille pour arriver au téléphone. Quoi. Et chaque chose est comme ça. Quoi.
Et l'angoisse aussi, détenu. Notamment, moi j'ai passé 22 ans en prison juste sans permission il y a un peu de temps, quelques mois. Et la première permission, là c'est l'angoisse MDR. L'angoisse par rapport à la société, c'était. Voilà, c'est pas facile, après 22 ans, contre la plaque. Et en ville, à un moment, j'ai pas osé traverser la. Voilà, passer les bagnoles, j'ai l'impression qu'ils allaient m'écraser. Ouais. Et ma copine ne me tient pas la main. Ah non, non, tu me tiens pas parce que voilà, tu marches devant, je te suis. Elle est passée, hop, j'ai suivi derrière. Pourtant, je savais qu'ils n'allaient pas m'écraser, il y avait une angoisse. Et après plusieurs sorties, bon, ça va mieux. Mais quand on rentre en prison, en tant que détenu longuement enfermé, on ne rentre pas deux doigts dans le nez. C'est très dur, c'est violent. Je me rappelle ce que je disais tout à l'heure. Voilà, même moi, qui fais 20 ans que je suis en prison, eh bien, je suis encore en permission. Quand je réintègre la centrale, il y a la boule, il y a ce lieu sombre que je ne voyais pas, que je ne voyais plus, parce que j'étais à l'intérieur. Donc là, j'ai commencé à voir les deux côtés, et c'est là qu'on prend conscience du temps passé et du dégât de la longue, longue incarcération. C'est pour ça que je m'en sors pas mal d'une certaine manière. Voilà, je te demande à dire.
Et encore, ici, on a de la chance, les grilles sont larges pour passer les mains à travers.
Il y a des prisons où on passe à peine un doigt, quoi. Donc on est dans le noir en permanence, quoi. Même avec la lumière, c'est... les prisons sont neuves, ils disent prisons 5 étoiles. Mais des fois, ils vont dans une prison où il n'y a plus qu'une seule étoile, mais voir clair, quoi, déjà. Déjà, juste voir la lumière, c'est déjà important, vous voyez. Comme après, on s'arrête à vraiment à l'essentiel, à peu de choses, quoi. On évacue un peu tout le confort qu'on pouvait avoir pour se dire, rien que d'avoir de la lumière, d'être content d'avoir de la lumière, quoi. Ça paraît rien, hein.
Donc, je suis Mélinda Fègre, j'exerce la profession de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Clairvaux est du coup un établissement, est une maison centrale sécuritaire, donc il y a des rythmes bien particuliers. Ils évoluent dans un cadre aux portes fermées, donc quand c'est pas l'heure de la promenade, ils sont en cellule. Et ils ont un voyant pour pouvoir demander à... Voilà, ils se disent à telle heure, c'est l'heure de la promenade, je vais allumer mon voyant. Le surveillant va savoir que je veux descendre en promenade. Et les choses vont se faire comme ça, au rythme des descentes, des remontées, des allées au sport, des heures de la gamelle, d'aller voir... voilà. Après, ils vont régler leur journée à eux dans le rythme qui se donne, mais c'est un rythme aussi qui est donné par l'établissement et qui est contrôlé. Quand c'est pas l'heure de la remontée du sport, c'est pas l'heure. Faut attendre. Ils savent que du coup, s'ils sont sur le sport, ils y sont pendant une heure et demie. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est une heure et demie où ils sont en bas et la montée, elle se fera 5 par 5 à l'heure où l'administration a décidé. Mais parce que ça fait partie des règles aussi, de vie, en tout cas, d'une détention. Une fois la fermeture, je crois, à 18h30, il y a eu la distribution de la gamelle et ils savent que plus rien, potentiellement, ne peut se passer jusqu'au lendemain matin, 7h. C'est le dernier tour de clé à telle heure et si c'est 19h, voilà, c'est jusqu'au lendemain matin et ils vont devoir faire avec.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je crois qu'ils vont devoir faire avec leurs états d'âme, avec leur propre regard sur eux. Souvent, c'est des moments, je pense, parfois angoissants. C'est aussi des moments, de réflexion aussi. Et du coup, ça peut être des moments qui peuvent être agréables, mais aussi parfois insupportables, parce que c'est aussi pour eux un temps de se retrouver face à soi-même. Et ça reste malgré tout une solitude profonde à ce moment-là, quoi. Et c'est eux souvent face à ce moment-là à ce qui les a enfermés. Et plusieurs fois, et de nombreuses fois, le lendemain, j'ai été en entretien le réceptacle, en tout cas, de ces angoisses-là, des cauchemars, et de combien de fois ils revivaient les faits, et la douleur, en tout cas, que ça procure chez eux. C'est aussi les manques de leur famille, de liens, de ce qui les a construits. Et du coup, c'est aussi, je pense, des moments difficiles.
on se lève le matin, pendant des années, tu vas vivre, tu vas faire les choses à heure fixe, le promenade à heure fixe, tu vas tourner à heure fixe, tu vas peut-être dire les mêmes choses,
non, à l'heure fixe.
Donc tu vis la même journée pendant des années. Donc on perd ce contact-là. Donc après, c'est l'imaginaire qui prend le relais, inconsciemment ou consciemment. Tu idéalises de l'extérieur, donc tu vois ça comme la sortie, ça va être un truc merveilleux. On a beau parler de crise, mais la crise à toi, c'est pas celle-là, tu vis une autre crise, quoi. Mais tu idéalises, donc c'est ça aussi qui te fait tenir, hein. c'est la porte qu'on va t'ouvrir, la petite lumière qui devient de plus en plus grande, quand tu es au bout du tunnel, tu marches, elle est de plus en plus grosse, c'est beaucoup de choses. La famille, ça peut être beaucoup de choses. Tu t'accroches à ce que tu veux.
Oui, certes, il faut de la persévérance, mais je crois que c'est aussi, comme le projet d'écriture, ce que je veux dire, c'est ça se fait sur une année, il faut de la présence, il faut écrire de temps en temps, il faut... Et notre parcours, en fait, il faut... C'est comme dans la vie extérieure, on a un parcours, il n'est pas linéaire. Hein. À l'extérieur, le parcours n'est pas linéaire non plus. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qu'il y a, il faut essayer d'être au-dessus de l'eau et pas en dessous, quoi. Parce que ici, la chute est dure, mais il ne faut pas rester noyé, quoi. Et on a plus facile à rester noyé qu'à nager en surface, quoi. J'exerce un travail, je sers les repas midi et soir. Et je fais un petit peu d'entretien les matins aussi, quoi. Alors, le travail, je pense que c'est essentiel en cellule, enfin en détention, et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à un travail. Après, il y a aussi des difficultés de pouvoir en donner un à chacun, mais ça permet aussi de donner une autonomie aussi financière, parce que la détention coûte, même parfois même plus cher qu'à l'extérieur. Vous avez un forfait limité à l'extérieur, téléphone qui est à 30 euros. Ici, 30 euros, on peut pas en téléphone que brièvement avec ça, quoi. Si vous voulez un complément de nourriture ou autre chose, il faut de l'argent, quoi. Donc soit vous demandez de l'argent à l'extérieur, à votre famille, soit vous essayez d'avoir une autonomie en ayant des petits salaires, mais en ayant quelque chose, quoi. Donc c'est important aussi, ça.
Et combien on peut gagner dans les différents métiers qu'on peut exercer ?
Alors c'est suivant chaque prison, suivant chaque fonction que vous occupez. Il y a des postes de celui qui sert les repas, c'est des choses qui sont à 2 euros de l'heure. Donc vous êtes payé 5 heures, vous faites 5 heures de travail par jour, donc à 2 euros de l'heure. 7 jours sur 7. Ouais. Faut que je fasse le calcul.
Voilà.
On est très pris, finalement. Moi, je pensais qu'il y avait une sorte d'oisiveté. Et en fait, on leur divise leur temps en petites cases. Et ils ont les ateliers, ils ont les parloirs, ils ont les... Et le temps est toujours très, très rempli, mais très mesuré. Les rapports entre gardiens et détenus m'ont surpris aussi. Je les trouvais plus courtois, plus... Enfin, ce que j'en ai vu, hein, que ce que j'imaginais. La violence, ce qui m'a étonné, c'est que la violence est rarement en plein jour. Elle est là partout, au tapis, dans l'ombre, mais elle ne se manifeste pas ou rarement de face au grand jour. Je ne dirais pas que j'ai appris quelque chose de spécial. Simplement, j'ai vécu un petit peu ce que c'était cet univers. Et voilà, ça, c'est déjà... C'est déjà important, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vécu.
Blanqui, arrêtez-moi si je me trompe. Blanqui, homme politique, il y a plusieurs années, bon, il est passé ici, il y a très longtemps, disait « il faut durer ». Et moi je le dis aujourd'hui, il faut que ça dure. Des initiatives comme celle-ci, il faut que ça dure. Ça n'apporte que du bien. Je ne dis pas que ça rend l'homme meilleur, mais ça va dans le bon sens.
Quand vous êtes en captivité, depuis des années, je suis ce qu'on appelle un vieux voyou. Donc, je vois bien le schéma, je fais de la prison depuis les années 80, malheureusement. Vous avez fait le chemin, vous avez eu la gentillesse de venir nous voir. Vous allez ressortir d'ici. Mais quand vous êtes en captivité depuis des années, vous vivez le même jour, c'est comme l'histoire du film du jour sans fin un peu. On vit un temps, nous on ne vit pas un temps linéaire, on est dans un temps circulaire. On vit la même journée pendant des années. On a une pesanteur carcérale. Donc pour la plupart des détenus, c'est plus facile de démissionner, de se laisser aller que de lutter à contre-courant. Donc si on pouvait nous permettre à travers des activités comme celle-ci, pas seulement celle-là, mais celle-ci c'est la plus criante à Clairvaux, puis c'est celle qui nous apporte le plus peut-être, certainement même, mais qu'on puisse démocratiser ça, de le faire plus souvent, de plus d'activités, que de nous permettre justement d'avoir accès à une espèce de, je sais pas, de transition avant la sortie.
C'était Clairvaux, la voix des longues peines.
Premier volet, instant limite.
Avec Anne-Marie Salé, Philippe Hersant, Jean-François Leroudui, Jamel, Ali, Antonios, Sébastien, Manu, Eddy et Doumé. Dominique Bruno, Mélinda Fègre et Philippe Triboulin. Avec les musiques composées par Philippe Hersant sur les textes des détenus de la centrale de Clairvaux, enregistrées lors du festival Ombre et Lumière en septembre 2012, intitulé Instant Limite. Coordination Irène Omelianenko, attachée de production Christine Bernard-Gedge et Eve Etienne, stagiaire Julia Bouton, prise de son Yves Le Horse, mixage Marie Le Peintre,
un documentaire proposé par Veronica Colalti
et Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.